Cher frère, je vais vous tourner le dos, mais je voulais être un peu moins distant de vous, chers frères et sœurs, qui vous êtes rassemblés aujourd'hui en cette église rénovée, être plus proche de vous pour que nous puissions accueillir ensemble ce que signifie pour nous cette rénovation de l'église que beaucoup d'entre vous connaissent déjà depuis longtemps, ont donc connu dans son ancien éclat, pourrait-on dire, dans si la voie maintenant pas tout à fait terminée. Normalement, nous aurions dû cet après-midi y bénir l'orgue, mais il se trouve qu'il y a quelques contraintes qui nous obligent, qui vous obligeront à revenir. Mais revenir ici pour vous n'est pas un pinsomme, c'est une joie. Donc, nous nous retrouverons pour cette autre occasion. Mais aujourd'hui, ce matin, nous essayons d'accueillir ce que signifie cette bénédiction de l'Église qui a duré un certain temps. Vous avez observé que j'ai pris le temps de vous bénir et j'aime bien, pardonnez-moi mesdames, mais j'aime bien mouiller les têtes. Ce n'est pas un symbole lointain, plus ou moins évocateur. Il faut qu'on puisse sentir le concret des gouttes d'eau qui viennent sur nous et qui rappellent ce baptême que nous avons reçu il y a plus ou moins longtemps. Cette bénédiction est pour nous l'occasion de remercier le Seigneur pour tout le travail qui a été fait par les entreprises, les ouvriers, les artisans qui ont travaillé ici. Et puis, c'est l'occasion de remercier le Seigneur pour la persévérance des frères qui ont voulu accompagner ces travaux, qui ont accueilli un certain nombre d'aides, mais qui ont aussi occupé ces lieux, parfois dans des conditions un peu difficiles. Reconnaissons-le, et nous le connaîtrons encore, lorsqu'en plein hiver, il peut faire froid. Il peut faire froid. Et donc, même si on n'y vient pas pour toutes les célébrations, quand on y vient, on peut se rappeler la rudesse des temps, la rudesse physique des temps. Mais c'est encore plus loin que la liturgie de ce jour nous invite à regarder pour accueillir comme une parole que le Seigneur veut dire à chacune et à chacun de nous. Vous aurez observé que ce ne sont pas les textes du 23e dimanche du temps ordinaire qui ont été lus, mais ce sont des textes qui sont proposés par l'Église pour la dédicace d'une église ou d'une cathédrale. Et donc ce sont ces textes-là que nous avons entendus. D'abord, avec Ézéchiel, nous avons quoi ? Nous avons Ézéchiel qui est un prêtre et qui, vers 597 avant Jésus-Christ, a été déporté à Babylone. Et là, il est éloigné de ce qui fait la raison même de sa vie. Il est prêtre. C'est pour participer au culte qui est donné au temple de Jérusalem. Et il en est éloigné. Et pas lui seulement, mais aussi une première fournée, si on peut dire, de déportés. Il y en aura une deuxième quelques années plus tard, lorsque la ville même de Jérusalem sera détruite et lorsque le temple sera détruit. Or, pour les Juifs, la destruction du temple, c'est pratiquement la destruction du lieu où Dieu est présent. Rappelons-nous tout ce qui est dit dans la Genèse, et puis ensuite le Lévitique et d'autres textes, et puis tout ce qui va entourer l'érection, puis ensuite la bénédiction, la consécration du temple de Jérusalem. Et donc, la destruction de ce temple est pratiquement l'expulsion, pour un juif, l'expulsion de Dieu, de ce lieu qu'il a choisi. Et quelque part, c'est l'expulsion du Dieu d'Israël du monde. Les rois, les empereurs, voulant d'une manière ou d'une autre diviniser leur présence et réclamer pour eux-mêmes un culte dont Israël sait qu'il n'est dû qu'à Dieu. Et Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut maîtriser, tout ce que l'on peut posséder, tout ce que l'on peut avoir, la puissance qu'on peut exercer. Et dans ce chavirement-là, Ézéchiel vient dire « Dieu qui était présent à Jérusalem, ne cesse pas d'être présent à son peuple. Dieu, qui veut être présent en certains lieux, veut être présent à l'humanité tout entière, à la création tout entière. Dieu ne peut pas être contenu dans un lieu. Et à ce moment-là, Israël devra faire comme une forme de conversion dont nous recevons quelques échos, qui est de ne pas limiter la présence de Dieu à des lieux, mais à voir ce qui est un lieu de présence pour Dieu, mais un parmi d'autres, un signe. Ainsi donc, ce lieu est le lieu de la présence de Dieu parce qu'il y a un tabernacle où la présence réelle est conservée, parce que ce bâtiment a été construit aussi pour être le lieu où se rassembleraient des communautés chrétiennes. Mais on sait que dans l'histoire, il a servi à d'autres usages. Ça a été, je crois, une menuiserie, ça a été une église paroissiale, ça a été une infirmerie et peut-être d'autres usages encore. Mais il revient à son usage, on pourrait dire, usage qui est un usage religieux et plus religieux encore, cultuel, qui est où se vit le cœur du mystère de la foi chrétienne. D'accord. Mais pour autant, il n'est qu'un signe. Et il me semble que c'est important pour nous. Vous, chers frères, lorsque vous voyez ce bâtiment, je ne sais pas comment vous le voyez, mais vous pouvez être fiers du travail qui a été accompli. Vous pouvez être heureux de ce que désormais vous vous trouverez dans un lieu plus lumineux, où la lumière qui peut passer par toutes ces ouvertures ne va pas être comme absorbée par l'obscurité des pierres et du temps, etc., etc. Bon, c'est très bien, mais c'est encore insuffisant. Ceci, cette chapelle, doit être pour vous, pour nous, pour vous, puisque vous y êtes plus fréquemment, le signe d'une présence. D'une présence qui n'est pas enfermée en ce lieu, mais qui, à partir de ce lieu, peut rayonner, parce que vous vous y retrouvez souvent, parce que vous y célébrez le cœur du mystère de la foi, l'Eucharistie, parce que vous y puisez des forces pour vivre votre consécration, votre vie religieuse, votre vie fraternelle, votre vie missionnaire, votre vie spirituelle, votre sanctification. Voilà qui est bien. Si nous allons jusqu'au bout des signes qui nous sont donnés, si nous ne nous enfermons pas dans des formes de superstition ou de magie, ce lieu est d'abord un signe. Frères et sœurs, vous venez certainement de paroisses, de communes très diverses, et vous avez, pour un certain nombre d'entre vous, la souffrance de voir votre église paroissiale fermée. N'a-t-elle plus d'usage pourtant ? Dans certains cas, elle peut en avoir un parce que on arrive encore, les prêtres arrivent encore à y célébrer la messe ou une célébration de funérailles ou de mariage, plus difficilement de baptême de temps en temps. Mais lorsque tout ça n'a pas lieu, est-ce que nous n'avons plus que nos larmes pour pleurer ? Sûrement pas. Car ces églises, votre église, même si elle est fermée, et nous savons que nous essayons quand même de les ouvrir de temps en temps, elle demeure toujours un signe pour vous. Un signe du Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Un signe d'une existence qui s'est fait proche de la vôtre pour que la vôtre ne s'enferme pas dans le confort que vous avez pu acquérir, ou ne s'enferme pas dans les souffrances que vous avez apportées. Un signe d'une proximité de quelqu'un qui s'est, de Dieu qui s'est fait homme. Même la société dans laquelle nous sommes le sait encore, en tout cas pour un certain nombre de personnes. Je me rappellerai toujours dans une visite pastorale que je faisais dans le Vexin. Et un maire, j'essaie de réunir, de rencontrer les élus de chacune des communes. Et il se trouve que donc ce soir-là, un certain nombre d'entre eux étaient présents. Et l'un d'eux prend la parole en disant, vous savez, l'Église, c'est important, même si c'est difficile à faire vivre. Parce que c'est un des trois bâtiments majeurs d'une commune. L'école nous rappelle que nous sommes dans une société où chacun doit avoir les mêmes droits
et pouvoir accéder aux responsabilités dans la vie sociale. La mairie, parce qu'elle nous dit que nous sommes une famille qui ne vit pas selon chacune, selon ses intérêts propres, mais pour une vie commune, pour une vie qui s'ouvre à plus que la vie familiale. Et puis l'Église qui nous rappelle que l'existence humaine ne se réduit pas à toutes les questions, on pourrait dire horizontales, qui se posent, mais qu'il y a un au-delà, il y a un ailleurs, qui à la fois nous rejoint. J'étais ahuri. Je me suis dit, mais je ne sais pas faire d'aussi bonnes homélies que ça. Alors, je vous partage. Un signe. L'apôtre Paul connaissait le prophète Ézéchiel. Et l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe et il leur dit, attendez, qui êtes-vous? Et il leur rappelle ce que nous avons entendu. Vous êtes le temple de Dieu. C'est un signe qui nous est donné par cette Église, nous renvoie à cet autre signe que chacun de nous est depuis son baptême. Parce que à notre baptême, nous sommes devenus participants du Christ prophète, prêtre, prophète et roi. Parce que le Christ nous a unis à lui de telle sorte que nous sommes membres de son corps, au point que si nous sommes malades, le corps est malade. Si nous blessons Dieu en nous, c'est le corps tout entier qui est atteint. On ne le voit peut-être pas, mais il l'est. Nous sommes donc signes nous-mêmes, signes de la présence de Dieu, rappel de Dieu. Est-ce que nous nous rappelons, frères et sœurs, que nous sommes le temple de Dieu, comme l'apôtre Paul le disait tout à l'heure, hein? Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. C'est-à-dire, c'est chacune et chacun de nous. On peut s'émerveiller de ce bâtiment, comme de beaucoup d'autres dans notre département. On peut se réjouir des sommes colossales qui sont dépensées par les autorités publiques, avec nos impôts, c'est vrai, mais n'empêche que pour entretenir. Mais tout ça, pour un chrétien, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est le rappel hérité d'une histoire que Dieu est encore présent au milieu de nous et que nous-mêmes, chacun de nous, là où il est présence de Jésus dans le monde. Pour y vivre l'adoration de Jésus, la mission de Jésus, le témoignage de Jésus, le service de Jésus pour que le monde soit sauvé. Alors voilà. Réjouissons-nous de ce lieu où nous sommes réunis aujourd'hui. Réjouissons-nous du culte qui sera rendu par la communauté des frères et celles et ceux qui les rejoindront. Réjouissons-nous de tous ces lieux, ces communes. On peut se rappeler que les communes en France ont été érigées, enfin, sont issues des paroisses et des églises, des communautés chrétiennes qui s'y réunissaient. Réjouissons-nous de tout cela, mais nous ne sommes pas tournés vers le passé. Nous sommes héritiers d'un passé, à charge pour nous que ce passé, dans la fécondité même du Dieu vivant, présent dans le cœur des hommes par son Esprit Saint, fécondité qui continue son œuvre en nous et pour le monde. Alors nous nous rappelons que ces signes sont le rappel d'une réalité pour chacune et chacun de nous et d'une invitation à ce que ces signes demeurent lisibles. Il faut qu'à travers nous, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, puissent se dire, il y a quelque chose dans ce bonhomme ou dans cette bonne femme qui est beau et qui mène en même temps, qui interroge, qui interpelle, qui invite à aller au-delà. Il faut que ces signes soient signifiants. Il faut que ces signes demeurent féconds à la mesure de la fécondité de l'évangile du Christ dans le cœur de l'homme et pour le salut du monde. Merci, chers frères, pour cette invitation que vous nous donnez ce matin de nous retrouver avec vous ici pour rendre grâce pour cette nouvelle Église. Merci aussi à l'Église de nous rappeler que chacun de nous est signe de Jésus dans ce monde, et nous implorons dans cette Eucharistie la force dont nous avons bien besoin pour être des signes visibles, lisibles, féconds selon la volonté du Christ. Amen.